BFM Business partenaire.
BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. Et vous en avez l'habitude, maintenant on commence beaucoup à vous parler d'IA générative, hein, et notamment avec ce chat GPT que l'on a tous utilisé au début pour s'amuser. Et puis on est en train de voir que bien finalement dans le monde professionnel, ça nous intéresse et ça devient un outil que l'on utilise presque au quotidien. On va en parler avec François Candelon, bonjour.
Bonjour Frédéric.
François, merci d'être avec nous, directeur monde du BCG Anderson Institute. Alors, il y a des plugins, hein, c'est ça, qui sont développés. Alors, comment peuvent-ils justement nous aider à réfléchir à l'avenir de ChatGPT et justement en termes d'engagement client, parce que c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, François.
Oui, alors les plugins, en fait, ils font deux choses. D'abord, ils vous permettent de faire en sorte que ChatGPT ait accès à des sources de données externes. Alors ça peut être l'internet, mais ça peut être aussi les données de votre entreprise, et ce dans l'objectif de limiter les hallucinations.
Oui, c'est ça.
Vous rappelez,
j'aime bien ce terme d'ailleurs, hallucination.
Quand ChatGPT disait à peu près n'importe quoi. Et ce qui est important, c'est que ça marche. Je vous donne un exemple. J'ai des amis qui ont en fait un plugin. C'était l'un des premiers. Il s'appelle Wolfram. C'est un outil de calcul en langage naturel. Et Wolfram, quand c'était utilisé, permet à ChatGPT, par exemple, d'avoir eu 19 sur 20 à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat britannique. Et sans Wolfram, ChatGPT a juste 8.
D'accord.
Bon, donc ça, c'est un premier élément, l'accès à des sources de données externes. Mais ce qui est peut-être plus important pour revenir justement à l'engagement client, c'est que avec ces plugins, vous pouvez mener des actions. Typiquement, vous pouvez commander sur Instacart ou faire d'autres choses. Et donc, plus vous allez avoir de plugins, plus ChatGPT va ressembler à ces super apps. J'ai habité longtemps en Chine, donc WeChat, évidemment, qui a l'ensemble de
votre vie. On sait qu'Elon Musk aimerait faire la même chose avec Twitter, hein, c'est son idée.
Votre vie digitale, hein, que ce soit médias sociaux, communication, e-commerce, paiement en ligne, etc. Mais je pense qu'avec ChatGPT et son interface en langage naturel, l'expérience client sera beaucoup plus riche.
Oui.
Et c'est pour ça que vous avez même Bill Gates qui dit dans quelques années, nous n'irons plus sur Amazon, nous utiliserons ChatGPT comme un assistant personnel.
Voilà,
assistant
on tapera une requête ou alors on parlera avec
un interagira,
avec ta reconnaissance vocale.
J'irai bien passer le week-end quelque part. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu me proposes?
Alors, donc, ça veut dire aujourd'hui, François Candelon, que les entreprises doivent, alors, est-ce qu'elles doivent créer des plugins, justement, et autour de cet engagement client? Et puis, quels sont, les avantages? On les voit bien, mais je me doute que, parce que tout le monde se lancerait, interrompu là-dessus, mais il y a des inconvénients aussi autour de ces
alors,
plugins.
Il y a déjà un gros avantage qui est l'accès à une base client qui est très importante. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est 60 millions de visiteurs par jour, donc et ça va croître. Donc c'est un petit peu comme quand vous mettez votre app sur l'App Store d'Apple.
Ah oui.
Le point qui est plus discutable et je dirais en symétrie, en miroir, c'est comment éviter la banalisation. Plus il y aura de plugins, plus il y aura de services. Comment est-ce que vous en sortez? Et puis le modèle d'affaires. Pourquoi ChatGPT va-t-il montrer vos produits, vos services plutôt que ceux de vos concurrents? Ça, c'est pas encore totalement
totalement calé. Quand on dit je veux partir en vacances là, si je reprends cet exemple, comment savoir s'il va venir sur mon site, moi qui ai payé pour être référencé le premier,
payé ou pas? Mais je pense que le point qui est le plus important, c'est que vous perdez en fait l'accès direct aux données liées à vos interactions clients.
Oui.
Et ça, ça peut créer un certain nombre de questions et de désagréments si vous le faites.
Alors on voit qu'en même temps certains ont lancé leur propre modèle. Alors lorsqu'on a préparé cette émission, on m'a dit il y a Bloomberg qui a lancé son Bloomberg GPT. C'est mieux de faire ça que de faire un plugin. On sait qu'on entend. Hein, j'étais l'autre jour au Salesforce World Tour. Ils ont créé Tableau GPT, Slack GPT. Alors est-ce que c'est mieux de faire ça ou de créer un plugin?
Alors déjà, pourquoi est-ce que Bloomberg a créé Bloomberg GPT? Je dirais que la première raison, c'est que ça leur permet de totalement sécuriser leurs données.
Ouais, c'est ça.
Et de sécuriser leur interaction avec les clients et de les mener bout en bout. Donc ça, c'est le premier point qui est très très important. Si vous voulez maîtriser totalement vos données, c'est bien si vous faites votre modèle propre. Ouais. La deuxième chose, c'est que en se focalisant sur l'information financière, en fait, ils ont développé des fonctionnalités que ChatGPT n'a pas et qui sont extrêmement utiles pour l'information financière et pour leurs clients. Mmh. Du style, ah ben, est-ce que tu peux, ChatGPT, m'analyser tous les rapports d'investisseurs qui ont été publiés sur l'entreprise X ou l'entreprise Y depuis un mois.
Ça veut dire qu'en créant ce Bloomberg GPT, on reste dans l'univers Bloomberg.
Reste dans l'univers Bloomberg et on reste avec tous ces éléments de données qui sont des données propriétaires et qui donc n'auront pas été, dépassées ou données à quelqu'un d'autre. Mais je pense que ce que l'on voit, encore une fois, c'est grâce aux données. Et donc, on voit émerger une sorte de concurrence entre des très gros modèles généralistes et des modèles qui sont plus spécialisés, qui peuvent coûter moins cher en besoin de puissance de calcul et qui sont assez performants sur une niche.
Et donc, c'est ça qui va faire la différence pour une entreprise qui va vouloir soit avoir un modèle performant sur une niche, soit avoir un modèle plus généraliste, c'est le coût, les performances. Parce que c'est vrai, là, aujourd'hui, on a tous l'impression que c'est, entre guillemets, gratuit, hein, GPT. Enfin, bon, il y a ceux qui payent.
Alors, c'est pas gratuit du tout, coût d'interférence.
Voilà. D'interférence. Parce qu'on lance ses requêtes, et puis derrière, c'est quand même des machines qui tournent. Et le jour où on commence à... ensuite, il y a des abonnements, ce genre de choses. Donc, pour les entreprises, comment elles doivent, entre le côté GPT qu'elles rajoutent, ou à une application plus privée ou alors à un plugin.
Alors, si vous voulez vraiment sécuriser vos data, si vous voulez mener de bout en bout, maîtriser de bout en bout votre interaction client, il faut absolument, vous pouvez essayer de vous lancer dans un modèle, mais à condition que vous soyez clair sur les ressources que ça demande, aussi bien ressources financières, ça coûte en fonction entre 5 et 50 millions, et puis, alors ça évolue beaucoup, donc on verra à terme. Mais donc vous avez ce coût financier, vous avez aussi besoin de ressources et de talents liés à l'IA, vous avez besoin d'ingénieurs logiciels, vous avez besoin d'ingénieurs cloud, donc c'est pas quelque chose que toutes les entreprises peuvent se permettre. Vous avez aujourd'hui plus de 80% des entreprises qui disent qu'elles ont du mal à avoir accès aux talents IA. Donc là, ce sont des talents très spécialisés. Et puis la troisième difficulté, si vous lancez dans un modèle, alors c'est pas pour dire de pas vous lancer dans un modèle, c'est juste pour dire, soyez clair sur ce que vous devez faire, c'est que on ne connaît pas encore exactement ce que seront les pratiques de vos clients. Donc au cours du temps, on est susceptible de devoir travailler davantage sur d'avoir de nouvelles technologies. Il va falloir être toujours aux aguets sur ce qui se passe.
Et alors, même si les entreprises ne sont pas obsédées comme ça par le contrôle de bout en bout de leur expérience client, si elles n'ont pas accès aux talents adéquats, elles vont faire comment ?
Ben en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, elles peuvent se dire je fais un plugin et je vais sur ChatGPT. C'est particulièrement pertinent si vous êtes une entreprise, une petite entreprise qui n'a pas de base client, ou si vous attaquez un nouveau secteur, ça peut vous permettre plus rapidement, potentiellement, d'accéder à la masse critique. En revanche, si vous êtes déjà une entreprise établie, si vous avez déjà une base client et que vous avez du mal à accéder aux compétences IA, vous pouvez soit faire comme Expedia qui a intégré ChatGPT mais dans son site, ou alors vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle le fine-tuning, donc raffiner avec vos données professionnelles, personnelles, enfin les données de l'entreprise, raffiner un programme et un modèle qui a déjà été, qui est soit un modèle open source, soit qui est un modèle...
On a Bloom.
Soit des modèles, l'accès à des modèles propriétaires. Alors vous avez chez Google, chez Microsoft, chez OpenAI, etc.
Mais ça veut dire que si on ne construit pas son propre modèle, on va dépendre quand même de quelqu'un. Alors, si c'est de l'open source,
C'est sûr, vous allez dépendre aussi bien en termes de qualité qu'en termes de fonctionnalité de ce qui sera fait. Et donc, c'est plus difficile pour vous, évidemment, de vous différencier.
Du coup, je suis un dirigeant. J'ai vu le potentiel, cette IA générative, je l'ai vu à titre personnel. Et puis finalement, à force de voir des démonstrations, de lire des articles, des rapports, je me dis, mais tiens, ça peut intéresser mon entreprise. qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la première mesure? Alors, on a bien compris, hein, il y a l'histoire des talents, mais...
Pour moi, les premières mesures, c'est plus quel est votre état d'esprit là-dessus. La première chose, c'est que vous devez vous rendre compte et pousser pour voir comment améliorer votre avantage concurrentiel. L'IA générative peut impacter l'ensemble de votre chaîne de valeur et je pars de la R&D et je termine au service client. Donc sur l'ensemble de la chaîne, ça peut changer quelque chose, c'est autre chose, c'est beaucoup plus important que simplement utiliser ChatGPT pour accéder à des informations, poser des questions ou résumer des réunions. Donc véritablement, l'accès et l'amélioration de votre avantage concurrentiel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les données. Une grande partie de l'avantage concurrentiel que vous liez à l'IA, il est lié aux données et en termes de qualité, en termes de quantité. Et ça, aujourd'hui...
Celles qui vous appartiennent ou pas ?
Celles qui vous appartiennent, celles qui vous appartiennent pas. Et aujourd'hui, plus des deux tiers des entreprises vous disent qu'elles ont du mal à accéder à leurs données de manière intégrée. Tout est siloté. Il n'y a pas de source simple de...
Et puis, selon l'organisation, ça peut être des données qui périssent.
Périssent, etc. Donc ça va être le nerf de la guerre. Donc un investissement très fort dans les données. Troisième point, comme on le disait, il va falloir quand même être lucide sur les talents que l'on a dans l'entreprise, hein, parce que c'est l'une des sources, des points de décision essentiels pour savoir ce qu'il y a de mieux dans ce que vous faites. Est-ce que je vais faire un plugin? Est-ce que je vais essayer moi-même de faire mon modèle? Ou est-ce que je vais faire...
Donc faut vraiment réaliste.
Donc là il faut vraiment être réaliste et lucide. Et puis le quatrième point, on en parlait, ce sont les coûts. C'est loin d'être gratuit. Mais vous avez des coûts d'investissement, vous avez des coûts de développement et vous allez avoir aussi des coûts d'inférence, c'est-à-dire dans l'utilisation de ces modèles.
Eh bien, merci François Candelon d'être venu nous parler de ce sujet, directeur au monde du BCG Henderson Institute. Donc voilà, pensez-y hein, dans l'engagement client. ChatGPT peut vous apporter énormément de services, des plugins ou alors développer votre propre application privée. Mais voilà, on vous a donné un petit peu les enjeux entre les talents, les coûts, les technologies et puis voilà ce que vous voulez en faire surtout, et on en revient toujours au titre de cette session, hein, la stratégie. Et oui, ben la stratégie avec l'IA générative, il faut y réfléchir.
C'est pas uniquement une question technologique. L'IA générative, c'est une question technologique, il faut mettre ses mains dans le cambouis, mais c'est aussi une question stratégique.
Voilà, tout est dit. Merci François Candelon, à très bientôt pour une nouvelle session.
À bientôt. Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.